Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Ce 20 mars, nous retrouvons notre évêque, Monseigneur Marc Ayé. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Et nous retrouvons avec plaisir Violaine Ricourt-Dumas, qui nous revient d'une absence liée à un congé maternité. Bienvenue Violaine, bonjour.
Merci, ravie de vous retrouver.
Nous allons aborder plusieurs sujets dans cette émission. Nous parlerons à la fin des événements diocésains, nous parlerons de votre voyage au Togo, Monseigneur. Nous parlerons également de la crise sociale qui secoue notre pays. Et nous allons commencer tout de suite par les scandales qui se multiplient dans l'Église, avec notamment la dernière décision du pape qui a refusé la démission du cardinal Barbarin. C'était le lundi 18 mars, puisque le pape a reçu le cardinal Barbarin le 18 mars et le 19 mars, Monseigneur Barbarin a annoncé donc cette décision. Alors il se retire du diocèse. Vous, comment vous comprenez cette décision qui n'est pas forcément très bien comprise, notamment des victimes?
Alors d'abord, moi je salue à la fois la lucidité et la dignité du cardinal Barbarin qui a pris acte de cette condamnation, même si à titre personnel il a fait appel de cette décision, ce qui était tout à fait le droit que consent la justice à tout citoyen. À partir du moment où lui, même s'il reconnaît telle ou telle erreur d'appréciation, n'a pas dans son cœur et dans ses intentions eu le souci d'éteindre, d'étouffer une affaire ou de défendre l'institution. Et qui quand même a pris acte de cette décision de justice dans un premier temps, et même a d'abord exprimer sa compassion envers les victimes et redit hier dans cette interview exclusive qu'il a donnée à KTO et que j'ai écouté avec beaucoup d'attention combien toute cette affaire en tout cas avait aidé à une vraie prise de conscience et de la souffrance, de cette souffrance insupportable qui est portée par les victimes qui ont exprimé leur colère, mais cette colère a été vraiment l'expression d'une vraie souffrance et qu'il était important dont il est important à tous, pour tous, de prendre conscience. Après, il a été digne aussi parce que il a pensé que, comme il l'a expliqué, que sa personne et donc nécessairement son diocèse, son clergé, ses fidèles, ayant été dans l'œil du cyclone avec ces projecteurs braqués évidemment sur son affaire, avec ce procès qui n'en finit pas, ça a tellement créé de souffrance aussi au sein de ce diocèse qu'il lui semblait tout à fait logique de remettre sa charge entre les mains du Saint-Père et d'ouvrir une nouvelle page pour ce diocèse qui a besoin d'un nouveau souffle et qui a besoin de paix. Et je crois que c'est dans cette tension-là, très déterminé, même quelle que soit d'ailleurs l'issue du jugement, puisqu'il avait déjà pris cette décision avant la décision du tribunal correctionnel de Lyon du 7 mars, je trouve que c'était sage, et j'avoue que j'aurais été à sa place, je pense que j'aurais fait la même chose. Mais il se trouve, c'est un renversement de situation, que le Saint-Père, le recevant donc lundi 18 mars, a refusé de lui retirer sa charge, en considérant que la présomption d'innocence, à partir du moment où il y a un appel, qu'il a d'ailleurs confirmé comme une bonne chose, a refusé cette démission, lui disant, en lui suggérant en effet, dans le sens de cette initiative, cette démarche qu'il avait faite de lui remettre sa démission, que peut-être il lui appartenait de prendre un peu de recul, mais il n'a pas accepté sa démission. Je trouve que c'est aussi sage, et ça montre aussi que le Saint-Père, là où il est, tout en étant parfaitement conscient des souffrances encourues par les victimes, d'où ce sommet au Vatican de février, n'est-ce pas, pour prendre des mesures plus concrètes dans le monde entier par rapport à la protection des victimes d'abus sexuels dans l'Église, mais reste libre de sa décision et considère que la présomption d'innocence l'emporte tant que le jugement définitif n'a pas été prononcé.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas un décalage, justement, entre ce sommet qui a eu lieu donc du 21 au 24 février au Vatican, avec les présidents des conférences épiscopales du monde entier et les supérieurs des différents ordres religieux? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce que le Vatican, qui dit tolérance zéro, et puis cette décision, ce refus de la démission du cardinal Barbarin par le pape?
Non, parce que je vous rappelle que le cardinal Barbarin n'est pas un prédateur et il n'est pas accusé d'abus sexuels. Il a peut-être été accusé de non-dénonciation, puisque c'est le terme de la loi, mais je vous rappelle que dans un premier jugement, il a été innocenté du même tribunal correctionnel. Dans un second, il est déclaré coupable, avec 6 mois de prison avec sursis, comme peine, alors qu'il n'y a aucun élément nouveau, qui a une pression médiatique très forte, qui peut en effet avoir une influence sur une telle décision, et qui exprime aussi cette souffrance réelle, et qui doit être en effet première, et premièrement considérée, c'était l'objet de ce sommet Vatican, des victimes. Et je rappelle aussi que non seulement sur la suggestion de ses avocats, il a fait appel à cette condamnation, mais le procureur de la République, qui n'avait requis aucune peine dans ce deuxième jugement, lui-même a fait appel de cette condamnation. Donc vous voyez que c'est pas si simple que ça, et en l'occurrence, le pape n'est pas du tout en contradiction, parce que il n'est pas responsable d'abus sexuels.
Il a écarté le cardinal Pell, qui lui a été condamné en Australie.
Alors il a écarté le cardinal Pell parce qu'il est arrivé à 75 ans, et donc il était arrivé à l'âge de la démission par rapport à la responsabilité qui est la sienne. Mais pendant tout le temps du procès, vous remarquerez que il n'avait pas démis le cardinal Pell de ses fonctions. Là aussi, comme vous le savez, beaucoup de voix se sont levées en Australie, et pas des moindres, des anciens premiers ministres, un certain nombre de magistrats également, pour s'étonner de cette sentence, et qui est l'objet aussi d'un appel, donc on ne sait pas non plus où tout cela ira.
Monseigneur, vous avez évoqué ce sommet au Vatican, donc au mois de février. Est-ce qu'il y a eu des mesures supplémentaires qui vous ont été transmises dans les diocèses, dans les conférences épiscopales?
Alors, pour l'instant, non. Comme vous savez, en France, nous sommes quand même, je ne dis pas qu'on est à la pointe dans la prévention contre les abus sexuels dans l'Église, mais c'est vrai que d'année en année, et en particulier dans ces dernières années, avec les révélations de la souffrance des victimes, à travers ces associations de victimes qui se sont constituées tout à fait légitimement, nous avons déjà fait beaucoup, pris beaucoup de mesures. J'ai envie de dire d'ailleurs que prendre des mesures, c'est une chose. Faire des déclarations, des conférences pour améliorer le dispositif, c'en est une autre. Mais je crois que ce qui est le plus important pour nous, concrètement, indépendamment des grandes décisions qui sont prises, des grandes mesures générales qui sont imposées dans notre gouvernance, c'est les mesures concrètes que nous prenons. C'est l'écoute concrète des victimes. C'est la compassion concrète envers les victimes. Et ça, rien ne le remplacera. C'est l'accueil des victimes, des proches, c'est l'accompagnement des prêtres et des fidèles, qui est notre première responsabilité d'évêque. Hein. Et je pense que moi-même, quand je vois tout ça, je me dis, ma première responsabilité, c'est pas de faire des grandes déclarations, c'est facile. C'est pas de collaborer avec la justice. Je crois qu'on le fait maintenant de manière très exacte et très habituelle. C'est comment je vais prendre le temps d'accueillir la victime, d'écouter sa souffrance, de l'accompagner dans sa difficulté, pas seulement de manière judiciaire, mais de manière humaine, morale, quelles sont les cellules que l'on met en place, les équipes d'accompagnement, les moyens concrets, les démarches concrètes que nous faisons pour les aider à se reconstruire.
Auprès des séminaristes, est-ce qu'il y a une formation supplémentaire? Est-ce que vous en discutez avec eux? Est-ce qu'ils ont été troublés par tout ça?
Alors je crois que ce qui est premier, c'est pas d'abord de faire de la prévention sur cet aspect par les moyens techniques que nous avons et que nous mettons en œuvre, évidemment, des sessions tout à fait spécifiques qui sont faites de prévention dans ce domaine. C'est effectivement la formation humaine des séminaristes, comment nous l'accompagnons. Là encore, je précise que depuis l'exhortation apostolique Pastores Dabo Vobis en 1981, 1992 du pape Saint Jean-Paul II, la formation humaine a été mise au cœur de la formation sacerdotale. Et ce qui est premier, c'est pas de faire de la prévention après coup, c'est pas de faire des opérations ponctuelles qui pourraient d'ailleurs n'être que des opérations comme, entre parenthèses, mais c'est comment au jour le jour, dans l'accompagnement d'un séminariste pendant toutes ces années de formation, eh bien, on est attentif à cette éducation humaine, en accompagnant des processus de croissance, dans la maturation psycho-affective, sans laquelle il n'est pas possible d'envisager de devenir prêtre, en plus d'assumer le célibat sacerdotal qui est le trésor de l'Église latine, mais qui ne serait pas non plus possible, qui serait aussi un manque à gagner pour accomplir une vie d'homme et une vie conjugale. Donc je pense que c'est ça qui est premier. Après, on fait forcément la théologie morale va avoir un aspect spécifique sur cette question. Il y a avec des spécialistes, des sessions de formation qui sont proposées aux séminaristes pour les aider à prendre conscience de cette réalité dans le monde d'aujourd'hui et à laquelle ils seront forcément confrontés puisqu'ils seront au contact d'enfants et de jeunes.
Récemment, la chaîne de télévision Arte a diffusé un documentaire consacré à l'abus de religieuses par des prêtres de l'Église catholique. Et je cite un communiqué de Mgr Lebrun, le 8 mars dernier, l'archevêque de Rouen. « Je n'imaginais pas à quel point il y a de la pourriture au sein de notre Église catholique. » Est-ce que vous acquiescez à cette déclaration de Mgr Lebrun ?
Je pense que c'est une réaction à chaud et à laquelle je consonne, même si je pense que les scandales qui existent, évidemment, il faut des images et il faut des témoignages pour en prendre encore plus conscience. Mais nous savons malheureusement depuis toujours que l'homme étant pécheur et profondément pécheur, y compris au sein de l'Église, les scandales n'ont jamais manqué, même si c'est vrai. Que le développement des moyens de communication et aussi la sortie de cette loi du silence qui n'est pas le propre d'ailleurs de l'Église mais qui est le propre aussi de toute la société qui a évolué beaucoup depuis ces dernières décennies a occulté un peu ces réalités-là et donc on finit par les oublier et les enfouir dans notre mémoire. Malheureusement c'est le scandale du péché comme le pape l'a dit lui-même lors de ce sommet du Vatican dans son discours de clôture c'est le mystère du mal hein, et de l'esprit du mal qui est là. Et c'est aussi, je pense qu'il faudra un jour, parce que je pense que toutes ces affaires-là sont pour nous salutaires dans le sens où elles nous invitent à une vraie purification. Et elles nous invitent à de vraies conversions personnelles. Et elles nous invitent à un vrai engagement dans la recherche de la sainteté, qui est le propre de toute vie chrétienne, depuis le baptême, comme le Saint-Père nous l'a rappelé aussi dans sa lettre apostolique sur la vocation et la sainteté dans le monde actuel. Et je pense qu'il faudra aussi que nous fassions la gestion, que nous fassions l'analyse de tous ces verrous qui ont sauté à une certaine période, qui n'est pas si lointaine, mais dans les années 70-80, où tout était possible, on en prenait beaucoup à son aise aussi au sein de l'Église, par rapport à l'enseignement dogmatique et par rapport à l'enseignement moral de l'Église, et finalement, on a abandonné un certain nombre de règles de prudence qui ont toujours fait partie de la discipline de l'Église et qui ont conduit aussi, qui peuvent être aussi à l'origine de ce délitement un peu, de ces dérapages très graves et finalement de ces dépravations que l'on peut connaître aujourd'hui au sein de l'Église comme au sein, hélas, de beaucoup d'autres institutions, à commencer par la famille.
Nous retrouvons Mgr Marcaillet dans quelques instants. Nous allons parler de la crise sociale qui secoue notre pays.
Radio La Pour Dire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Ayet, nous reprenons cette émission avec vous, pour parler de la crise sociale qui secoue notre pays en ce moment, avec cette crise des gilets jaunes et puis des violences qui continuent. Est-ce que l'Église a eu son mot à dire dans le grand débat ? Est-ce qu'elle a pu s'exprimer et qu'est-ce qu'elle peut dire, puisque ça la touche aussi ? Ce sont des personnes qui expriment leur colère et leur et peut-être aussi leur pauvreté.
Manifestement, pour ma part, je note que ce grand débat qui s'est achevé le 15 mars, comme on le sait, et dont la part médiatisée est quand même très éloignée des préoccupations des Français, puisque ça a été les grands shows de 6h, 7h de questions-réponses du président de la République avec des groupes d'élus plus ou moins choisis, je pense que ce grand débat n'est pas forcément, visiblement, la grande réponse attendue par le mouvement des Gilets jaunes. La preuve, c'est que ça continue. Alors sans doute, ce mouvement finit par s'enliser dans des violences qui ne sont, à mon avis, pas le fait des Gilets jaunes et qui, encore une fois, ne sont pas suffisamment contrôlés, ces éléments, ces black blocs, ces groupes de casseurs qui s'insinuent, dont qu'on connaît très bien, qui sont parfaitement connus de la police et qui peuvent librement, sans intervention de la police, ce qui commence à devenir une question qui touche profondément notre société et qui est quand même adressé au gouvernement par les parlementaires, de l'opposition sans doute, mais enfin quand même, qui peuvent librement détruire, casser sous l'œil des journalistes et qui vont permettre sans doute de discréditer ce mouvement des Gilets jaunes qui, à mon avis, n'est pas à l'origine de ces violences. Même si l'expression de la colère que représente ce mouvement des Gilets jaunes depuis le 17 novembre dernier, donc ça date quand même de plusieurs mois, et l'expression d'une colère qui est liée à une profonde injustice. Ça n'est pas juste, comme l'Église l'a dit à plusieurs reprises, d'ailleurs par la voix de tel ou tel de ses évêques ou de ses représentants, de ne pas pouvoir vivre du produit de son travail. Les Gilets jaunes sont quand même l'expression de dysfonctionnements graves au sein de notre société, de fractures sociales extrêmement graves. 60% des Français qui sont dans les territoires dits périphériques et donc qui ne bénéficient pas des embellies économiques qui touchent les mégapoles et donc ne sont pas pris suffisamment en compte par un gouvernement qui est quand même enfermé dans la logique des mégapoles et de la financiarisation toujours croissante de l'économie mondialisée. Bon, c'est vrai que les gens qui sont dans les territoires ne bénéficient pas de tout ça. Les Gilets jaunes, c'est ça l'expression. Alors après, qu'il y ait des gens qui s'insinuent que ce mouvement ne soit pas organisé précisément, qu'il soit spontané et trop spontané, finit par ne plus savoir qui est qui endosse un gilet jaune et qui veut casser ou qui veut exprimer sa colère devant la justice.
Et même si c'est pas les gilets jaunes, les casseurs, ils expriment une violence et ça prouve qu'il y a une fracture, qu'il y a un vrai problème.
Alors il y a une vraie fracture. Il y a une fracture sociale que l'on connaît beaucoup. Pierre Manon parlait de 10 sociétés. Ça veut dire qu'il y a un individualisme qui finit par être tellement roi que les liens sociaux ont été tellement délités et fracturés. On l'a déjà dit sur cette antenne, l'éclipse des corps intermédiaires qui permettent aux individus de se rassembler et de créer du lien social et d'être aussi une force de proposition et de régulation face à un État qui doit rechercher d'ailleurs le bien commun, qui est porté par tous ces corps intermédiaires, aboutit aussi à cette crise des Gilets jaunes, et puis aussi cette fracture, on va dire, socio-géographique entre les mégapoles et les territoires qui concernent quand même 60% des citoyens français. Donc il faut quand même voir tout ça, et je pense que le grand débat, qui a brassé beaucoup d'idées, de manière extrêmement brillante par un président qui connaît parfaitement ses dossiers, je ne sais pas s'il a vraiment répondu à cette attente concrète des Français.
Apparemment, puisqu'il y a toujours des gens dans la rue.
Alors il y a toujours des gens dans la rue, et puis quel va en être le résultat ? Entre parenthèses, je note en passant qu'il y a eu aussi des grands débats citoyens qui ont été organisés à propos des lois de bioéthique. On sait que dans les débats citoyens, comme dans les contributions des citoyens qui ont bien voulu participer sur le site dédié, étaient à 80% opposés, par exemple, à la généralisation ou l'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, ça n'a pas empêché le CCNE, le Conseil d'État, de dire qu'on va avancer vers cette décision. Et le gouvernement lui-même n'arrête pas de faire des effets d'annonce, même si, et c'est peut-être un signe qu'ils ne sont pas si sûrs que ça, du consensus, la loi est sans cesse ajournée au grand dam des lobbies militants.
L'Église a donc moins de poids, vous pensez, pour réussir à faire passer sa position ?
Ben, je ne sais pas très bien. L'Église participe au débat au niveau de la révision de la loi de bioéthique. Elle a quand même beaucoup travaillé, fait des fiches qui ont été distribuées. Elle a organisé des rencontres.
Elle dit que ce n'est pas perdu.
Elle dit que ce n'est pas perdu. Elle continue à s'exprimer. Et elle a raison de continuer à s'exprimer. Je ne sais pas si on a beaucoup participé au grand débat. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en reste médiatiquement ? Ce qui reste médiatiquement du grand débat, c'est les grands shows du président de la République, qui, d'une certaine manière, avec la complicité quand même des médias, qui discréditent de plus en plus le mouvement des Gilets jaunes à cause de ces violences qui sont perpétrées et qui sont insupportables et qui finissent par peser beaucoup sur la vie des citoyens, on a l'impression qu'il est surtout à la reconquête de son électorat, qui, de fait, dans les sondages, frémit un peu, et qu'il est tout tourné vers les élections européennes pour redorer sans doute son blason. Enfin, je parle un petit peu librement, mais je pense que ce sont des lieux communs que de le signaler.
Ouais, il y a eu une flambée de l'antisémitisme liée à ces manifestations notamment, mais pas que. Il y a eu aussi des églises qui ont été attaquées. Il y a quand même un climat assez malsain aujourd'hui en France.
Oui, il y a un climat de violence latent et finalement où un certain nombre de groupes s'en prennent à des institutions, des autorités morales ou religieuses. Alors c'est vrai que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a toute cette part de violence contre l'État, contre le gouvernement. Bon, c'est pas nouveau, ça, hein, dans les mouvements sociaux qui ont traversé notre histoire. Mais c'est aussi l'Église, c'est les Juifs. Maintenant, sont aussi les musulmans, comme on a vu des mosquées qui ont été attaquées de manière sanglante en Nouvelle-Zélande. En tout cas, chez nous, c'est essentiellement quand même, c'est vrai, une recrudescence d'antisémitisme, dont on peut dire qu'il vient aussi de l'islamisme, la plupart du temps, hein, comme on le sait, même si on n'ose pas trop le dire. Et puis ce sont les églises, et c'est vrai que c'est inquiétant, hein, de plus en plus d'églises qui sont l'objet de pas seulement de profanation, mais de saccage. Je vois encore l'église Saint-Sulpice à Paris très récemment, qui était l'objet d'un incendie volontaire et criminel.
Alors, Monseigneur Haye, le week-end dernier, beaucoup de manifestants dans les rues pour demander des mesures concrètes pour lutter contre le dérèglement climatique. À Bayonne, il y avait 1400 lycéens vendredi 15 mars dans les rues de Bayonne. Le samedi, le mouvement BC a appelé aussi à une manifestation anglaise. Il y avait environ 1200 personnes. Est-ce que vous suivez ce dossier du climat ? On se rappelle qu'il y a eu la COP21 en 2015, qu'il y a eu ensuite la publication, l'encyclique Laudato Si du pape François. Comment vous percevez ces mouvements, ces jeunes qui s'élèvent pour demander un changement ?
Alors, moi, je suis partagé dans tout ça. D'abord, c'est évident que je suis sensibilisé aussi à ce discours de l'Église qui n'est pas nouveau, hein, mais qui a abouti à cette belle encyclique Laudato Si, qui resitue d'ailleurs la défense de l'environnement dans la protection de la création. Et dans une écologie dite intégrale, hein, qui comprend tous les aspects de la vie, hein, et à commencer par la vie humaine, et qui est directement impactée par les changements climatiques que nous connaissons et qui nécessitent en effet des prises de conscience au niveau de la société. Donc c'est évident que je pense que là où le Saint-Père avait mis l'accent dans son encyclique Laudato Si, c'est essentiellement des changements de mode de vie. C'est ce que nous pouvons faire concrètement là où nous sommes. Vous êtes bien évidemment conscient que cette manifestation dans le monde entier du 15 mars ne sont pas un mouvement spontané et que ce ne sont pas les jeunes qui ont pris conscience tout d'un coup de la nécessité de défendre la planète avec des slogans plus ou moins convenus. qui sont descendus dans la rue. Pour ma part, et d'ailleurs je ne crois pas que les indications du secrétaire général de ce mouvement catholique y conduisaient, je ne trouve pas normal que dans nos établissements de ce mouvement catholique, les jeunes soient incités à faire la grève des cours et à les manifester pour le climat. Sans compter qu'ils peuvent être facilement, surtout dans à leur âge et dans leur niveau de responsabilité et dans leur mode de vie habituel, manipulés par des organisations nationales ou internationales, plus ou moins politisées, qui cherchent aussi à se frayer un chemin, sous prétexte en effet de défendre la cause de l'écologie intégrale, et qui est une vraie cause à laquelle nous sommes nécessairement engagés. Je pense qu'on a mieux à faire, et c'était d'ailleurs ce qui était préconisé par le secrétaire général de l'Ensemble catholique, que j'ai bien lu les circulaires envoyées aux directions du CESEN, eh bien, non pas d'inviter les gens à faire la grève, ce qui n'aurait aucun sens, mais d'avoir des moyens éducatifs pour sensibiliser les jeunes à cette question au sein des établissements, comme ça a dû se faire d'ailleurs dans beaucoup de nos établissements de l'Ensemble catholique, comme ça se fait pas seulement le 15 mars, mais de manière habituelle, ça va dans les réductions énergétiques, le recyclage du papier, la permaculture dans les établissements catholiques agricoles ou autres. Voilà. Et donc je pense que c'est pour des jeunes, c'est plutôt une éducation que de les lancer dans la rue, dans un mouvement un peu informel, mais qui est quand même un peu téléguidé et qui n'a pas beaucoup de sens, à mon sens.
Radio Lapourdi, Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous retrouvons notre évêque Monseigneur Marc Caillé et nous allons parler de votre séjour au Togo, puisque vous êtes parti rencontrer les chrétiens du diocèse de Kara dans le cadre du jumelage que vous avez souhaité avec ce diocèse. Alors vous n'étiez pas tout seul à partir.
Alors non, cette fois-ci donc c'était en réponse à la visite de Monseigneur Jacques Longa à Bayonne, si vous vous rappelez, il y a un an. Je l'avais invité à présider la fête de Saint-Léon à la cathédrale et à faire une petite visite pastorale pour mieux connaître l'hérité de notre diocèse. Et donc, en réponse à ce voyage qui avait, d'une certaine manière, scellé notre projet de jumelage, qui avait été initié par ma propre visite fin 2015 dans ce diocèse, avec l'abbé Jean-Michel Barnetsch, responsable de la mission, du service de la mission universelle dans notre diocèse, eh bien, en réponse, je suis donc retourné à Kara dans le cadre du 25e anniversaire de la fondation de ce diocèse. Le diocèse de Kara a été fondé en 1994, donc ils en ont fait une année jubilaire, et donc dans ce cadre-là, nous sommes allés y participer un peu, et c'était une manière aussi de consolider les liens de partenariat entre nos deux diocèses. Alors cette fois-ci, j'avais amené avec moi l'abbé Victor Gomez, qui est le secrétaire général du conseil presbytéral, pour donner encore plus de poids à ce partenariat entre donc les clergés de nos deux diocèses, et puis deux fidèles laïcs, Nicole Boulet, que l'on connaît bien, qui est chargée de la communication sur Pau Périphérie et qui est très impliquée dans sa paroisse Notre-Dame d'Espérance de Jurançon, et puis un fidèle laïc, vous voyez la parité, homme et femme, de la paroisse Saint-François-Xavier Navarinx, qui est un historien très au fait de l'histoire africaine, et très intéressé aussi par l'histoire du Togo et autres, et donc qui nous a aussi accompagnés.
Alors comment s'est passée cette visite? D'abord, pouvez-vous nous parler un peu du Togo, peut-être?
Voilà. Alors le Togo, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest, comme vous le savez, qui est coincé, si je puis dire, entre le Bénin, qui est mon pays natal, et le Ghana, qui est un pays qui ne fait pas 7 millions d'habitants, et qui comprend 7 diocèses. Qui est un pays relativement pauvre, mais sur le plan politique, relativement paisible. Voilà, il y a une certaine stabilité politique dans ce pays. La capitale Lomé fait déjà presque 3 millions d'habitants, presque la moitié de la population. Et nous sommes jumelés avec un diocèse qui se trouve dans le nord, à 450 km donc au nord de Lomé, qui est sur l'Atlantique, et qui s'appelle donc Kara, un diocèse qui a 25 ans d'existence. C'est un pays qui comprend aujourd'hui pratiquement 25% de catholiques, peut-être 30% de chrétiens, la majeure partie de la population étant adepte des religions traditionnelles, dans ce que l'on appelle couramment les animistes. L'islam est présent dans certains endroits. Sokodé, qui est un diocèse qui est juste avant le diocèse de Kara, en montant vers le nord, qui est très très musulman, mais l'islam est présent à peut-être à peine 10% hein, de la population. Il y a une grande expansion du christianisme hein, par l'annonce de l'évangile. C'est plutôt d'ailleurs les animistes qui deviennent chrétiens, hein, plus que les musulmans, même s'il y en a aussi. Et les paroisses, évidemment, ont des nombres considérables de catéchumènes qui se préparent au baptême. Chaque année, dans une paroisse, il peut y avoir 50 à 100 baptêmes hein, d'adultes qui ont été préparés pendant presque 4 ans hein, dans un catéchumène ben, relativement exigeant. C'est une église, l'église du Togo, qui est tout à fait autonome et qui peut aujourd'hui se passer des missionnaires qui venaient d'Europe. Puisqu'aujourd'hui il y a un clergé complètement autochtone hein, et des évêques qui sont complètement pris de ce clergé. Pour vous donner une petite idée, nous en France on a 64 millions d'habitants, c'est ça à peu près ?
À peu près.
Voilà, un pays chrétien depuis 20 siècles où la religion dominante c'est encore la religion catholique. Hein, il y a encore je pense un peu plus de 60% de gens qui se réclament du catholicisme et qui sont baptisés en France. Et il y a 650 séminaristes diocésains. Au Togo, il y a à peine 7 millions d'habitants, 25% de catholiques, et il y a 550 séminaristes. Voilà, répartis en 3 séminaires régionaux, c'est-à-dire il y a un séminaire propédeutique pour l'ensemble du Togo, un séminaire pour le premier cycle, la philosophie, qui est à Kara d'ailleurs, pour l'ensemble du Togo, et un séminaire de théologie que j'ai visité à Lomé, avec l'abbé Victor Gomez et ceux qui m'accompagnaient, et vous avez 250 séminaristes qui se préparent au sacerdoce d'entrée dans une
salle. On vous a un peu envieux de Monseigneur Tanga.
Un petit peu, oui. Ah ben, de l'ensemble du Togo. On entre dans une salle de classe où vous avez les deuxième et troisième années, ils sont presque 180, et tous en soutane blanche, et ils sont là, tout à fait accueillants, enfin bon, c'est magnifique.
Comment ça se fait, selon vous, qu'il y ait une telle... que ça tourne tout seul, finalement, il n'y a plus besoin de missionnaires? Comment ça se fait que les vocations soient suscitées, alors?
Ils sont missionnaires eux-mêmes.
Ils le sont mieux que nous, voilà.
Il y a une organisation magnifique. Si vous voulez, dans le moindre village de brousse, donc de campagne, vous avez des catéchistes. Alors, les catéchistes, c'est une institution. Hein, ce sont des laïcs, la plupart du temps mariés d'ailleurs, hein, qui sont formés dans des centres de formation de catéchistes et qui sont chargés dans les villages où le prêtre ne vient qu'épisodiquement parce qu'il est trop éloigné du centre missionnaire ou de la paroisse missionnaire, qui sont agrégés à des paroisses mais qui peuvent être à 20 ou 30 kilomètres du centre de la paroisse et qui sont chargés d'organiser la prière commune et puis de catéchiser les enfants et les adultes. Et ce sont donc des gens qui sont tous dédiés à cette tâche d'annonce de l'évangile, de première annonce pour beaucoup, évidemment, qui sont adeptes des religions traditionnelles ou de l'islam. Et ça, il y a une espèce de transmission de la foi qui se fait de cette manière. Alors après, il y a de plus en plus de familles aussi qui transmettent la foi à leurs enfants. Et donc il y a tout un travail missionnaire qui n'est plus accompli par des missionnaires qui viennent d'ailleurs, mais qui est accompli par les agents pastoraux du dedans, hein, c'est-à-dire les prêtres, les catéchistes, les consacrés, et les fidèles laïcs, chacun dans leur responsabilité.
Ce que vous venez d'évoquer là, pourquoi c'est parce qu'on met en place dans nos paroisses, au Pays Basque, au Béarn, où on sent quand même un besoin d'évangélisation. Finalement, tout tourne encore autour de la figure du prêtre dans notre diocèse, dans nos diocèses. Pourquoi
Alors, tout tourne là-bas aussi autour de la figure du prêtre, hein, pour ce qui est de l'enseignement, de la sanctification par les sacrements, du gouvernement, de la paroisse. Mais le catéchiste est un collaborateur très, 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 très important qui prépare la visite du prêtre. Hein. Je pense bien que... Et puis, il y a...
C'est quand même la question du rassemblement dominical qui est posée
voilà.
Dans nos nos villages ruraux, on n'a pas la messe tous les dimanches. Il faut aller dans l'église centre bien souvent pour bénéficier d'une eucharistie. Pourquoi on ne permet pas que les chrétiens se réunissent dans chaque église pour partager la parole de Dieu, même sans eucharistie, pour que la communauté continue à vivre? Ce n'est pas possible ici.
Non, je pense que ce n'est pas juste. Ça a été une tentative qui a été abandonnée dans tous les diocèses. Parce que nous sommes quand même dans une
réalité. On préfère laisser mourir les communautés.
Non, on peut les susciter autrement. L'Eucharistie est la source et le sommet. Elle est pas ça ne veut pas dire qu'il faut pas que les gens se réunissent. Au contraire, il faut susciter d'autres réunissent et une fin de l'Eucharistie. Parce que là, on est dans une conception presque liée à une société de consommation. Nous avons la possibilité de bouger. Si un chrétien est un chrétien authentique, un chrétien de tradition, et qu'il n'est pas capable de prendre sa voiture pour aller à 3 km pour voir la messe, ou 5 km, parce qu'il n'y a quand même pas des distances énormes, alors qu'en Afrique, il faut faire 30 km à pied. Pendant la saison des pluies, ce n'est pas praticable en voiture, ni donc ça n'a rien à voir. Donc on peut imaginer qu'il y ait un rassemblement autour du catéchiste, qui est sans distribution de la communion d'ailleurs, en attente du prêtre qui va venir pour célébrer la messe et célébrer tous les sacrements. Nous en sommes pas tout à fait là. Le chrétien qui est convaincu de sa foi, il peut se déplacer.
Oui, mais l'Eucharistie est source de la communauté. La réalité fait que les chrétiens ne se déplacent pas. Quelques-uns, oui.
Donc il faut ressusciter l'intérêt pour le Seigneur et pour l'Église d'une autre manière. L'Eucharistie, encore une fois, c'est le sommet. Et il faut rassembler les gens autour de la parole, d'une manière nouvelle, qui casse les organisations un peu routinières de nos paroisses. Ça, j'y crois beaucoup.
En fait, c'est la ferveur qui nous manque. Est-ce qu'en Afrique, vous avez justement trouvé des idées pour nous redonner cette ferveur ?
Je pense que j'ai pas d'idée particulière parce qu'on peut pas transposer la culture togolaise avec la culture française ou basco-béarnaise. Ce qui est sûr, c'est que l'apport d'un prêtre africain qui vient chez nous, on est conscient quand même du choc culturel que ça peut représenter, la jeunesse de sa foi, la ferveur dont il est porteur de celle de son pays, peut avoir un impact pour réveiller la ferveur dans nos pays où, c'est vrai, on s'endort un peu. Vous savez, il suffit pas de faire une adap dans une paroisse pour refaire la communauté.
C'est pas forcément une adap. Ça peut être la prière des lords tous les dimanches dans une église.
Mais ça, je l'ai toujours préconisé. J'ai toujours dit, dans toutes mes visites pastorales, que les chrétiens devraient être capables de s'organiser sans le prêtre dans leur église. Même si la messe n'y est dite que tous les 3 mois ou tous les 6 mois, ou seulement pour les obsèques, ou pour les baptêmes, ou pour les mariages, qu'ils soient capables de s'organiser pour prier à 2 ou 3, sonner la cloche, dire un chapelet, faire un partage de la parole de Dieu, chanter un office. J'ai demandé d'ailleurs au service, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais de la pastorale liturgique et sacramentelle, de sensibiliser les fidèles à cette prière des heures, qui est un authentique lieu de rassemblement de la communauté. Mais je crois beaucoup que dans les Actes des Apôtres, dans l'Église primitive, et c'est vrai dans toute l'histoire de l'évangélisation de l'Église, comment est-ce que les communautés chrétiennes s'est constituées ? Par l'annonce de la parole. Voilà. Et il faut vraiment que cette parole de Dieu soit annoncée de manière nouvelle pour rassembler des chrétiens tièdes ou des recommençants, pour leur permettre petit à petit d'accéder à la communauté dont l'Eucharistie est en effet le sommet et la source.
Monseigneur, où en est concrètement le partenariat, le jumelage ? Qu'est-ce qui se fait concrètement entre
concrètement,
les deux diocèses ?
Vous savez qu'il n'y a pas grand-chose à part un échange de personnes, puisque nous avons des prêtres du Togo qui exercent un ministère chez nous. Nous avons un séminariste actuellement qui est en stage intersecte dans la paroisse de Notre-Dame de Fatima de Niamtougou, que j'ai donc évidemment visité, et puis un jeune qui a voulu faire du volontariat pour discerner sa vocation et qui est un ancien de la maison Samuel. Voilà. Mais justement, on a essayé de formaliser davantage, de faire le point sur notre partenariat, et on va développer ici un comité de pilotage qui soit plus dédié spécifiquement à ce jumelage, en lien avec le comité de pilotage qui est à Cara, de manière à échanger des projets communs.
On retrouve Mgr Marquet dans quelques instants pour parler de la vie du diocèse.
Radio La Pourdire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous terminons cette émission avec vous, Mgr Ayet, pour parler des événements diocésains. Alors, tout récemment, le 16 mars, il y avait plus de 800 jeunes élèves de 5e à Bayonne, dans la cathédrale et puis au collège Saint-Bernard. Vous leur avez dit qu'ils étaient les pierres vivantes de l'Église. Vous misez vraiment beaucoup sur eux, justement, en ces temps troublés de l'Église. Eux, ils sont le beau côté de l'Église.
Oui, c'est ça. Je crois que c'est vrai que c'est, comme vous le soulignez là, et ça me paraît la première chose à signaler, c'est que tout ce qui se passe dans le diocèse, tous ces rassemblements de jeunes, et qui expriment aussi tout ce qui se fait dans les paroisses, hein, pour les accompagner, alors pour ces cinquièmes-là, c'est ceux qui sont accompagnés en vue de la confirmation, c'est aussi le beau visage de l'Église. Les catéchumènes, les 30 catéchumènes adultes que j'ai appelés aux sacramentisations chrétiennes pour la prochaine vigile pascale, le premier dimanche de carême à Salis de Béarn, qui viennent frapper à la porte de l'Église, qui viennent de milieux plus ou moins différents et souvent hostiles à la foi chrétienne. Tous ces LJDJ, les journées mondiales de la jeunesse que nous avons vécues à Panama et dont on a eu déjà bien l'occasion de parler, tout ça montre aussi une vitalité. Le séminaire aussi dont on pourra parler, les jeunes qui se préparent au sacerdoce, une vitalité qui n'est pas démentie et qui n'est pas découragée par le mauvais côté, en effet, qu'il ne s'agit pas pour autant d'oublier et d'éclipser. Et ces 800 jeunes de 5e qui participent à une journée à la fois sérieuse par les catéchèses, par la prière, la possibilité de se confesser aussi, et puis aussi par le jeu, est rempli d'espérance.
Récemment également, vous avez présidé un forum Jésus le Messie, c'était à Pau, dont le thème était « Comment évangéliser les musulmans ?» Alors c'est un thème un peu surprenant, pourquoi évangéliser les musulmans ? Alors vous avez expliqué, vous, le lien entre le dialogue interreligieux, dont on parle surtout quand on parle de l'islam, et l'annonce. Comment être à la crête entre les deux.
Je crois que c'est parti. En fait, je ne présidais pas, je participais à un forum qui est organisé par des à la fois des catholiques et des convertis de l'islam qui ont décidé de dire, à partir du témoignage donc de convertis de l'islam, nous sommes des chrétiens, nous avons rencontré le Christ, nous qui venons de l'islam, et comme tout chrétien qui a rencontré Jésus, nous avons envie de le partager avec les autres, et particulièrement avec nos frères, qui sont les musulmans d'où nous venons. Et je crois que c'est une manière de remettre en perspective ce dialogue interreligieux qui n'en perd pas sa nécessité, hein, comme j'ai essayé de l'expliquer, à partir en effet des indications que nous donne le magistère de l'Église, mais que l'on oublie parfois. La perspective du dialogue interreligieux, pour lui-même, c'est en effet de réaliser les conditions de confiance mutuelle, de connaissance mutuelle, de confiance amicale et conditions de la paix entre les peuples, qui peut être menacée précisément par les rencontres et les chocs entre les religions, comme on le voit hélas dans le monde aujourd'hui, mais qui est en dernière analyse ordonnée à l'annonce. C'est pas moi qui le dis, évidemment. C'est le magistère de l'Église, c'est Saint Jean-Paul II, c'est le pape Benoît XVI, c'est le pape François aussi. Ce sont des documents très importants qui dirigent la mission de l'Église. Et donc, replacer le dialogue interreligieux dans la mission fondamentale de l'Église, qui est d'évangéliser. Donc, tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi annoncer l'Évangile aux musulmans ? Parce que nous sommes appelés à annoncer l'Évangile à tous. Hein, le mandat missionnaire du Christ, c'est pas aller annoncer l'Évangile à ceux qui sont disponibles pour et qui ne sont pas déjà encartés dans un autre parti. Et non, proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. C'est Jésus qui le dit. Qui ne croira pas pour avoir entendu l'Évangile de manière suffisamment effective et qui aura renoncé à rencontrer le Christ. Si nous croyons que le Christ est le sauveur de l'humanité, qu'il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, qu'il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus au ciel, sur terre et dans les enfers, mais ça je ne redis que les paroles de Pierre dans les Actes des Apôtres, pour être sauvé, ben, notre devoir, si je puis dire, ou notre responsabilité, c'est d'annoncer l'Évangile. Vous voyez, c'est la joie de l'Évangile. Voilà.
Ce qu'on a pu voir pendant ce forum, c'est qu'il y a des références communes entre le Coran et la Bible. On parle de Marie, même de Jésus, Issa. Alors, est-ce que ça peut être un moyen, justement, de rentrer en dialogue avec les musulmans et de leur faire comprendre différemment le
même
Coran?
Même si on se rend compte que souvent, Marie n'est pas la même, puisque chez eux, Marie est la sœur de Moïse et d'Aaron. Donc, c'est sûr que...
Mais c'est quand même la mère de Jésus.
Et bien, en même temps, la mère de Jésus, ce qui est assez paradoxal. Mais c'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs il y a un chrétien donc, d'Orient, un Syrien, Ephrem, qui a justement insisté là-dessus, en disant que dans les premières sourates du Coran, enfin en tout cas dans le deuxième chapitre, vous avez beaucoup de références à Jésus, et donc on peut partir de là pour entrer en dialogue et annoncer Jésus aux musulmans. Mais vous voyez, c'est pas du tout dire il faut pas dialoguer, et c'est pas faire du prosélytisme, car il ne faut pas confondre l'annonce de l'Évangile avec le prosélytisme. Mais le mandat missionnaire du Christ, c'est d'annoncer l'Évangile à tous. Et je disais, comme le pape l'a souligné lui-même, que la présence importante des musulmans dans notre pays, qui peut être aussi une difficulté, comme vous le savez, sur le plan de la politique migratoire, mais ça, ce n'est pas notre problème à nous, et devient une opportunité pour les chrétiens qui ont rencontré le Christ et qui savent que l'Évangile est l'Évangile du salut, bien d'annoncer l'Évangile. Encore une fois, d'annoncer, ça ne veut pas dire imposer, hein, c'est proposer la foi. Et d'insister sur cette question de l'annonce de l'Évangile, y compris aux musulmans, ben c'est un peu nouveau, c'est un peu inédit, mais finalement c'est très logique par rapport à la mission de l'Église.
Le 30 mai prochain, le jeudi de l'Ascension, vous allez ordonner 3 diacres en vue du sacerdoce. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Voilà, ben je suis très heureux aussi, en effet, d'annoncer ça encore plus officiellement. Donc l'ordination de 3 séminaristes, donc comme diacres en vue du sacerdoce. Donc ça va se passer à Cibourg, sur la côte basque. Pourquoi ? Parce que l'un des deux est originaire de Cibourg. L'un des trois, oui, pardon, est originaire de Cibourg. Et nous avons 2 séminaristes sur 3 qui sont des jeunes basques, hein. Puisqu'il s'agit de Baptiste Pochelu, qui est de Cibourg, et qui termine ses études, quant à lui, à Rome, au séminaire français. François-Régis Jeannot, qui, lui, est originaire de la Soule, hein, par sa mère, et qui est tout à fait bascophone. Et puis, Alexandre Méret, qui, lui, vient d'une région plus au nord de notre diocèse, puisqu'il est de la région de Poitiers. Voilà. Mais il est très inculturé et très amant du Pays Basque.
Il paraît qu'ils vont très souvent aux Aldudes.
Ils vont très souvent aux Aldudes, rencontrer le père Etcheverry. On a vu des photos dans le journal qui l'attestent. Bon, voilà. Donc, c'est une belle nouvelle pour notre diocèse que ces 3 diacres ont vu du sacerdoce.
Donc, c'est le jeudi de l'Ascension à Cibourg à 16h l'après-midi.
À 16h30, je crois.
16h30. Les ordinations sacerdotales, est-ce que vous pouvez nous en parler ou c'est trop tôt ?
Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt. Ce sera quand même le samedi 29 juin, hein, comme on le fait désormais le samedi matin. Ça permet quand même aux prêtres aussi de venir, d'être moins fatigués par le dimanche matin, quand c'était le dimanche soir, et ça permet aux nouveaux prêtres de dire une première messe le dimanche. Mais ça, pour l'instant, le conseil d'appel n'a pas...
On en reparlera dans la prochaine émission.
La prochaine fois.
Un dernier mot, Monseigneur, pour clore cette émission. La campagne du denier de l'Église est en train d'être lancée. Donc c'est l'occasion de relancer les fidèles pour donner au diocèse. Quelle a été la situation en 2018 ? Est-ce qu'on a relancé la machine ?
Alors la situation en 2018 est un peu moins bonne que 2017, qui avait connu une embellie, puisque nous avons une perte de 5%. Je crois que ce déficit de la collecte du denier est un peu général en France, Bon, elle est liée à des circonstances que nous connaissons bien, sans doute déjà, comme on le dit toujours, le vieillissement de nos donateurs, et au bout de la chaîne, la disparition de certains. Donc ça, forcément, c'est un manque à gagner. Il y a quand même eu, dans ce qu'on appelle la conquête de nos donateurs, une petite baisse aussi de ce côté-là. Bon, il faut compter avec le prélèvement à la source, l'augmentation de la CSG pour les retraités, la crise économique qui inquiète aussi et qui fait hésiter. Bon, et puis aussi, on peut pas nier, comme je l'expliquais dans les colonnes de Sud-Ouest et de la République des Pyrénées, l'impact de la crise des abus sexuels dans l'Église qui peut aussi avoir une influence sur des donateurs plus hésitants.
Pour terminer, Mgr Hayet, peut-être quelques annonces concernant la Semaine Sainte. La messe chrismale aura lieu.
Alors la messe chrismale a lieu le mardi.
Mardi Saint.
Donc mardi Saint, je crois que c'est le 16 avril à 18h à la cathédrale de Lescar cette année.
Voilà. Et pour la Semaine Sainte, vous serez où cette année?
Alors la Semaine Sainte, il faut encore que je le dessine. C'est encore pas tout à fait fixé. Je serai certainement le dimanche de Pâques à la cathédrale comme d'habitude. Et le jeudi saint, normalement, pour la messe In Chiena Domini, la messe de l'institution de l'Eucharistie du sacerdoce. Mais pour le vendredi saint et le samedi saint, c'est encore à l'étude.
Un grand merci à vous, Mgr Marc Hayet. Merci à tous les auditeurs pour votre patience et pour votre fidélité. Et merci aussi à Violaine Ricourt-Dumas. À bientôt.